Radio Kapi.
Nouvelle à la une. Trois mouvements politiques se donnent rendez-vous de manière indépendante dans les rues de Kinshasa. Le tout premier se réclamant de l'opposition dans Ensemble pour la République en vol et cité d'une part. ACP, Alliance des Congolais progressistes, distinctement de la jeunesse de l'UDPS de l'autre part. Chacun ses revendications, manifestations toutes autorisées, mais attention, met en garde l'autorité urbaine à chacun de veiller à l'encadrement de ses sympathisants pour éviter tout dérapage. Village Tadita, presque aux abords de la RN1, et Tabunda dans le Congo, cible d'une incursion de ceux qui se font appeler Mobondo. Ils y ont tué 5 personnes, ainsi des voix s'élèvent pour un arbre à palabre, comme vous le suivrez dans ce journal, afin d'une accalmie. Gifoli Kebeya Pindipassi, administrateur du marché de la liberté, c'est lui qui parle en tant qu'invité de ce journal. Fidèles auditeurs, merci de la confiance que vous essayez de nous accorder. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Avant de parler de la une de ce journal, dans le Nord Kivu, la population observe une intense activité caractérisée par une lueur au-dessus du cratère du volcan Nyamulagira. C'est dans le territoire des Rutshuru, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Goma. Pour les sources de l'Observatoire volcanologique de Goma OVG, c'est depuis le 9 mai qu'il y a une coulée de lave dans la partie nord-ouest du cratère de Nyiragongo. Elle précise projeter une mission pour vérifier si la lave coule en dehors du cratère ou non. L'OVG appelle tout de même la population de Goma au calme. Selon ce centre de recherche, si éruption il y a, la lave du Nyamulagira devrait s'orienter vers la zone du parc national des Virunga. Premier titre de ce journal à présent. La marche de l'opposition programmée pour ce 20 mai à Kinshasa a reçu l'approbation de l'autorité de la ville. Gentiline Ngobila a pour la même journée approuvé les manifestations d'autres formations politiques de la majorité au pouvoir. C'est notamment l'Alliance des Congolais progressistes ACP et la Ligue des jeunes de l'UDPS. Ceci ressort d'une rencontre tenue jeudi à l'hôtel de ville de Kinshasa entre les autorités provinciales et les secrétaires généraux de ces formations politiques. Gratien Tsakala, ministre provincial de l'Intérieur, exhorte chacun des leaders à encadrer ses militants afin de préserver l'ordre public. Suivez cet extrait de ses propos sélectionné par Chris Bandundu Kapalai.
Tenant compte de certains paramètres sécuritaires et pour éviter naturellement des affrontements dans la ville de Kinshasa, l'autorité urbaine a décidé d'autoriser la marche de l'opposition sur un itinéraire qui serait compris entre le rond-point Sakumbi, l'avenue Kasavubu, la place Victoire pour chuter à la place Imka. Et la Ligue des jeunes de l'UDPS partira du rond-point Ngaba pour chuter devant l'église Saint-Raphaël. Il s'y est de rappeler que l'autorité urbaine a tenu compte des itinéraires qui ont été librement choisis à travers les courriers des différentes formations politiques et que donc, pour pouvoir préserver la paix et l'ordre public dans la capitale, il a donc dû séparer. À cet effet, l'autorité urbaine a rappelé qu'en cas de trouble à l'ordre public, en cas de vandalisme, en cas d'atteinte tant physique que toute perturbation de la quiétude des Kinoises et Kinois, la responsabilité pénale et civile des organisateurs serait engagée.
À Beni, cinquième et dernier jour ce vendredi de la série des journées ville morte décrétées par la société civile pour décrier l'insécurité grandissante dans la ville. Cette structure citoyenne salue la détermination de la population et le respect du mot d'ordre. Son président parle ici de certaines recommandations qui accompagnent ses actions. Pépin Kavota, président de la société civile en ville de Beni, est au micro de Marc Marofimbo.
Le premier bagage, c'était donc la levée de la mesure de l'état de siège. La deuxième recommandation, c'était que ceux-là qui étaient nommés par les chefs de l'État comme dirigeants ou autorités de la ville de Beni devaient entrer en fonction parce que ils ont été nommés par une ordonnance du chef de l'État. La troisième recommandation, c'était que toute la population dans tous les 30 quartiers de la ville de Beni, qu'ils se reconstituent groupe de vigilance pour appuyer les services de sécurité dans la ville de Beni. Dans les recommandations, il y a un grand point sur les procureurs près le tribunal de grande instance de Beni qui est en train d'arrêter, même s'il n'y a pas d'infraction, il arrête. Nous avions sollicité que ces procureurs-là aussi soient mutés de la ville de Beni pour une autre entité, pour que là aussi, on constate ce qu'il est en train de faire à la population de Beni. Et ce que nous disons, les actions continuent et seront définies dans la réunion d'évaluation de deux structure, donc la société civile et les conseils de la jeunesse, et même toutes les couches de la population.
Insécurité dans la province du Congo. Au moins 5 personnes ont été tuées dans le village Tadita après attaque des miliciens du groupe qui se réclame Mobondo. Ça s'est passé la nuit du jeudi à vendredi à quelques kilomètres de la RN1. Toutes les maisons ont été incendiées par ces miliciens. Le gouvernement provincial du Congo ainsi que le cadre des concertations provinciales de la société civile qui livre ce même bilan provisoire indique que la présence de ces assaillants est visible notamment dans le village Pont Congo sous la RN1. Et la population prise de psychose est en débandade, chacun a pris sa direction. On écoute Maître Adélar Nkissi, porte-parole du gouvernement provincial du Congo qui plaide pour la tenue d'une conférence de paix réunissant les Teke et les Yaka. Il a été joint par Irène Boma.
Effectivement, il est signalé qu'il y a eu des attaques dans le village Tabita, mais il y a aussi Tabuta, j'ajoute. Et tous ces villages sont dans le groupement Takundi par les Mobondo. Et le bilan, on apprenait déjà qu'il y a... Tabita, par exemple, il y a 5 morts et le village brûlé, ainsi que Tavunda. Donc nous attendons le bilan général, mais provisoirement, on nous a signalé la mort de 5 personnes. Et dire que tous ces villages sont pratiquement aujourd'hui désertiques, tout le monde est dans la brousse. Bon, la situation est sous contrôle des forces armées qui sont venues prêter main forte, nonobstant quelques présences de Mobondo qui se réorganisent et reconstituent ça et là. Mais il faut dire que ça demande une solution un peu plus holistique en marge de ce que nous avions traité comme couvre-feu. Il est important que la République commence à organiser une conférence pour la paix. C'est la solution beaucoup plus pacifique qui remettrait sur la table les Teke et les Diyaka pour que nous puissions échanger et connaître les vraies raisons qui amènent les uns et les autres à se comporter d'une manière ou d'une autre.
La crise à Kwamout et dans la partie est de Kinshasa impacte négativement les activités des fermiers et autres Kinois qui ont investi à Maluku, au plateau de Bateke et les villages environnants. Ils avaient l'habitude de s'y rendre chaque semaine, d'y passer même des jours pour suivre leurs activités champêtres et leur élevage. Leurs produits approvisionnaient aussi la ville. Ils sont nombreux aujourd'hui à ne plus y accéder suite à l'insécurité. Du coup, le suivi est compliqué et les pertes s'accumulent. Ils appellent au retour de la paix pour poursuivre leurs activités. Babel Pongo Massimango.
Certains ont pu sauver quelques biens, mais le gros est resté sur place. Monsieur Cornelius.
Au début de la crise, j'avais pu évacuer quelques bêtes. D'autres sont restées, ainsi que des poules. Je n'avais pas les moyens de tous les déplacer.
Le sort de ces biens est incertain, mais ce qui est sûr, les cultures sans entretien ne peuvent donner grand-chose. Madame Petou Poutou et Monsieur Umberto Casadi ont investi dans cette partie. Tous disent subir des pertes énormes.
Une vache qui était malade, le vétérinaire ne savait pas accéder, nous l'avons perdu. Nous avions 6 hectares de maïs qu'on n'a pas pu sarcler, il n'y a plus de main d'œuvre. Les cultures ont été envahies par les mauvaises herbes et nous avons perdu.
Ça m'a vraiment pénalisé parce que j'étais en pleine récolte d'aubergines. Je devais également récolter des rachis et du maïs. Aussi, à la fin du mois passé, commence ma récolte de patates douces. J'ai perdu même 1 hectare de tomates.
Ils appellent au retour de la paix et aussi à un soutien pour les aider à réduire l'impact des pertes subies.
Nous espérons en tout cas que les autorités vont sécuriser le plateau de Bateke afin de nous permettre de continuer notre travail qui contribue énormément au développement de notre pays parce que nous approvisionnons différents marchés de la capitale.
Si l'État peut voir dans quelle mesure il peut assister les agriculteurs qui ont perdu.
Pendant ce temps, certains gardiens des fermes sont menacés. Ils sont obligés de remettre des biens en nature aux miliciens pour avoir un semblant de tranquillité.
Retour dans le Nord Kivu, plusieurs centaines d'écoliers et élèves déplacés à Bweremanam ne vont plus à l'école. Ils sont utilisés soit par leurs parents, soit par des tierces personnes pour des activités lucratives et domestiques dans leur camp d'hébergement à Bweremanam. Cette cité est située à environ 50 km au sud de la ville de Goma. C'est un groupement Mufuni Shanga, chefferie de Bahunde, en territoire de Masisi. Le responsable de la sous-division de Bweremanam s'inquiète du refus de certains parents d'envoyer leurs enfants dans les écoles de la place alors que le message les invitant à rejoindre les différents établissements scolaires a été largement relayé dans tous les sites d'hébergement des déplacés. Ce responsable sollicite l'appui des différents partenaires ainsi que du gouvernement pour sauver l'avenir de ses enfants actuellement en péril. Kibanja Masuruku Faustin explique au micro de Gabriel Wamenya.
Bweremanam est à plus de 50 km de Goma. Il y a de ces parents-là qui sont restés dans les camps. Et en restant dans les camps, les enfants, eux aussi, ont décidé de rester à côté de leurs parents. Ceux-là, en tout cas, ils sont absents dans nos écoles. Mais cependant, à Bweremanam même, parce qu'il y a à Bweremanam, il y a aussi des camps de déplacés. Il y a des parents qui ont refusé de laisser les enfants aller vers les écoles, bien que sont passés dans les camps pour faire passer les messages que nous recevons tous les leurs enfants. Malheureusement, il y a eu des parents qui ont décidé de rester avec leurs enfants parce que ceux-ci sont utilisés comme main d'œuvre pour des travaux et le peu qu'ils gagnent, bon, répond aux besoins de se déplacer là dans le camp. Pour l'instant, nous ne demandons que à nos partenaires qui nous viennent en appui, que l'UNICEF vienne pour assister ses enfants en fourniture scolaire, cahiers, ardoises, touches, etc.
Tous nos efforts pour avoir la réaction du responsable de la province éducationnelle 3 n'ont pas abouti. Les enseignants de Mbandaka ont organisé plusieurs jours de manifestations. Ils réclament le paiement des arriérés de leur salaire des mois de mars, avril et bientôt mai 2023 auprès de la Caritas. Ils souhaitent recevoir tous les litiges et puis que leur paye soit délocalisée. En réaction, l'abbé coordinateur de la Caritas Développement Mbandaka, Bikoro, rassure que l'Église catholique compatit à leurs souffrances et tient à continuer à leur rendre service. Seulement voilà, c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités de remettre à temps les fonds en vue de rendre réguliers leurs paiements. Abbé Louis Iyeli l'a déclaré au micro de Paul-Richard Malengela.
Nous avons reçu une partie d'argent. Le reste nous sera donné demain. On va continuer à les payer. Mais pour le mois d'avril, ils vont attendre parce que l'argent n'est pas encore envoyé.
Ça salit quand même l'image de l'Église.
Oui, oui. Les gens qui voient les choses de manière un peu superficielle pensent que c'est l'Église qui bloque. Mais au fond de la situation, on se rend compte que l'Église n'y est pour rien. Nous sommes là tout simplement pour aider la population. Ce n'est pas seulement au niveau de la paie des enseignants, des fonctionnaires. Il y a d'autres projets aussi de l'État congolais, projets avec notre Église, qui sont en train un peu de patauger. Mais il y a des démarches qui s'effectuent au niveau de Kinshasa parce que nous remontons toujours les informations. Ils connaissent bien la situation. Ce n'est pas seulement Mbandaka Bikoro, c'est un peu partout ailleurs. Je sais qu'à Bassankoussou, à Bukungu, ils sont dans la même situation que nous et dans d'autres diocèses aussi. Donc le problème est un peu général, mais l'Église est en train de faire ce qu'elle peut faire pour secouer un peu les autorités afin de servir la population.
Enfin, monsieur l'abbé, à force de subir des menaces, l'Église ne pourra-t-elle pas résilier ce contrat?
Je crois, on a beaucoup supporté, on continue encore à supporter. La position officielle de l'Église, c'est plutôt les évêques qui la donnent.
Parlons de ce mouvement social au sein de l'EPST. Le ministre Tony Mwaba a rencontré jeudi dernier le conseil d'administration de la Caisse générale d'épargne de la RDC Kadeko pour voir dans quelle mesure elle peut récupérer l'opération des payes des enseignants pour certaines zones dont Mbandaka. C'est ce qu'a affirmé hier vendredi à Radio Okapi son conseiller chargé des communications. Joël Kadedanga appelle toutefois les enseignants au calme et à ne pas perturber les enseignements. Joël Kadedanga a été joint par Grace Amzati.
Le professeur Tony Mwaba Kazadi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, est aussi préoccupé par le retard qu'accuse la paix des enseignants dans certaines zones où il n'y a pas de banque commerciale, où certains opérateurs de paix n'ont pas la capacité de déploiement, comme Caritas, selon ce qu'il venait de dire. Et c'est dans ce cadre qu'il a rencontré le conseil d'administration de la Caisse générale d'épargne de la RDC, Kadeko, afin de réfléchir sur le moyen de délocaliser la paie de certains opérateurs inefficaces vers la Kadeko qui est implantée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La Kadeko a donné toutes les garanties et nous sommes en train de travailler pour que d'ici peu, la Kadeko puisse récupérer l'opération de paie pour certaines zones comme Ilebo, Ndekese, Mweka, Mbandaka et partout où Caritas a déçu les enseignants.
La région est de la RDC connaît une baisse des productions du miel depuis environ une dizaine d'années. Une situation consécutive d'abord à l'activisme des groupes armés dans des zones d'approvisionnement, ensuite au désintéressement de l'État envers le secteur de l'apiculture. C'est ce qu'a fait remarquer l'organisation dénommée Groupe Academia ce vendredi à l'occasion de la Journée mondiale des abeilles le 20 mai. C'était au cours d'une conférence débat qu'il a organisée à Butembo. Kakule Vuchapu Mikael, président du conseil d'administration du groupe Academia, explique les défis auxquels fait face la filière au micro de Grévis Salomon.
L'apiculture au niveau de notre région fait face à plusieurs défis. Tout d'abord, ça fait partie des défis sécuritaires parce que les zones que l'apiculture était plus répandue est actuellement occupée par des miliciens et que les apiculteurs ont été obligés d'abandonner les différentes colonies d'abeilles pour se réfugier dans des villes et que ça fait en sorte que nous puissions au moins connaître une diminution ou bien baisse de la productivité du miel au niveau de la région. Cela aussi expose la vie des apiculteurs, parce que l'apiculteur qui ne vivait que de cette activité, lorsqu'il se retrouve hors de sa carrière, il se retrouve vraiment abandonné. Le gouvernement congolais a abandonné le secteur apicole, au point que même jusqu'à l'ère d'aujourd'hui, l'apiculture n'est pas au moins réglementée. Donc on n'arrive pas au moins à retrouver si qui doit gérer l'abeille. Ça n'a pas encore tenu en compte que vraiment c'est un secteur porteur d'espoir, parce que l'abeille est menacée sous différentes formes. Et là, nous voyons l'usage des produits chimiques, des insecticides, des brûlures à grande échelle. Et si rien n'est fait pour l'abeille, nous risquerons de nous retrouver dans un désert.
Actualité internationale.
Une vingtaine de civils, dont des femmes et des enfants, ont été tués entre lundi et mercredi lors des deux attaques des djihadistes présumés dans le centre-est du Burkina Faso, ont ainsi indiqué vendredi à l'AFP des sources sécuritaires et locales. Deux jours plus tôt, une autre incursion terroriste dans le village voisin de Kahongo avait occasionné la mort d'au moins 11 personnes, dont les femmes et des enfants. Lors de ces deux attaques, des maisons et des boutiques ont été incendiées par les assaillants qui ont aussi emporté du bétail selon la même source. Les Kenyans se préparent à une augmentation des taxes, le nouveau projet de loi des finances visant l'essence et les produits de beauté. Faux ongles, pâtes, crypto-monnaies, influenceurs, afin de renflouer les caisses de l'État, le gouvernement kenyan prépare une loi instaurant des nouvelles taxes tous azimuts qui suscitent inquiétude et ressentiment dans ce pays d'Afrique de l'Est déjà en proie aux difficultés économiques.
L'invité.
Notre invité, comme dit dans le sommaire, c'est l'administrateur du marché de Liberté. Guy Foli Kabeya Pindipassi s'exprime sur les produits agricoles qui se font rares dans ce centre de négoce. Et pour cause, l'insécurité dans le territoire de Kwamout, province de Maïndombe, qui s'étend jusqu'à Maluku, ici à Kinshasa. Ce qui entraîne du coup la flambée des prix de ces produits. Guy Foli Kabeya Pindipassi s'entretient avec Paul Matendo.
Monsieur Guy Foli Kabeya Pindipassi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Le marché des libertés est l'un des centres de négoce ravitaillés par le produit venant essentiellement du Grand Bandundu. Avec l'insécurité liée au conflit sur le plateau des Batiké, est-ce que le produit de première nécessité continue à arriver normalement?
Comme partout ailleurs, l'insécurité est un facteur dégradant pour la santé de l'économie. Ce qui se passe sur la nationale numéro 1 ne peut qu'impacter négativement non seulement sur l'activité paysanne, mais également sur l'approvisionnement des marchés urbains de Kinshasa en denrées de première nécessité. Au marché de la Liberté, cette problématique sur le produit des premières nécessités, notamment les maïs, les maniocs, les riz, les légumes, bananes et autres, a été au menu d'une rencontre que j'ai personnellement initiée depuis novembre 2022 avec les chefs de parking des différentes destinations qui encadrent et reçoivent les différents commerçants et véhicules en provenance ou en partance de l'ex-Bandundu. Avec les présidents des parkings, nous nous sommes mis à l'évidence que la crise qui prévaut dans le territoire de Kwamutu et sur la nationale numéro 1, impact sur l'approvisionnement des produits agricoles chez nous au marché de la Liberté, influençant ainsi la fréquence des véhicules interrégionaux en provenance de ces sites et occasionne par ces faits la flambée des prix.
Vous parlez de la flambée des prix. Peut-on avoir une idée, une illustration de cette variation des prix pendant cette période?
À titre illustratif, le gros sac de manioc qui se vendait avant la crise à 120 000 francs congolais les sacs, il se négocie à ce jour à 190 000 francs, voire plus. Les maïs qui se vendaient à 120 000 francs se négocient aussi à 190 000 les sacs. Donc pour ne donner que ça comme illustration. Étant donné que les assaillants brûlent sur leur passage les anciens stocks gardés dans les dépôts par certains cultivateurs ou confisquent même certaines marchandises, et cela ne nous permet pas justement d'avoir un approvisionnement suffisant pour alimenter suffisamment les assiettes des quinois.
Beaucoup de sources disent également que le trafic des véhicules est interrompu. Vous ne craignez pas que ceci puisse également entraîner la rareté de ce produit sur le marché des libertés?
Beaucoup de véhicules sont bloqués à Kinshasa, ne savent pas regagner les zones de production et d'autres sont bloqués en provenance à cause de la sécurité. Nous constatons que les trafics est grippé par ces conflits. Il est pressant que nos autorités s'impliquent davantage avec les différents notables de province du Grand Bandundu pour que la paix revienne rapidement et que la circulation des personnes et de leurs biens, sinon la flambée des prix, risque de créer un autre malaise social qu'on aimerait tous ne pas voir ici à Kinshasa, surtout que c'est le siège des institutions et que nous sommes conscients de l'impact qu'ont ces produits dans le quotidien des Kinois, des produits, je disais, en provenance de l'ex-Grand Bandundu.
Monsieur Gifouli Kabeyapindipassi, merci.
Et c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition de journal sur Radio Okapi. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de l'attention particulière que vous cessez d'accorder à cette chaîne.